Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bene omnia fecit. Tout ce qu'il a fait, il a bien fait. Devant les merveilles opérées par Jésus, la foule ne pouvait contenir son admiration. Et le meilleur compliment qu'elle trouve à son égard, c'est de dire qu'il a bien fait tout ce qu'il a fait. Et ce n'est pas un compliment quelconque, car au sens strict, cet éloge ne peut convenir qu'à Dieu. Comme il est dit dans la Genèse, Dieu vit tout ce qu'il avait créé, et voici, cela a été très bon. Et dans le livre de l'Ecclésiastique, toutes les œuvres du Seigneur sont très bonnes. Mais nous aussi, nous pouvons et nous devons imiter notre Seigneur en nous appliquant à bien faire toutes les actions ordinaires de notre vie. Comme notre Seigneur nous le dit en Saint Matthieu, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Nous allons voir quelques motifs pourquoi il faut bien faire nos actions ordinaires et puis ensuite comment les bien faire. D'abord, chacune de nos actions ordinaires, considérée en elle-même, si elle est conforme à la morale et à ce que Dieu nous demande au moment présent, est quelque chose d'excellent, d'une grande valeur, car il s'agit de l'exercice des nobles facultés que Dieu nous a données, notre intelligence et notre volonté. Chaque acte de notre vie peut être un acte de vertu qui mérite une gloire éternelle dans le ciel. Et ensuite, considérées dans leur ensemble, nos actions ordinaires ont une grande importance car elles forment la trame de notre vie, le fond de toute notre existence. Les actions extraordinaires sont, par définition, rares et exceptionnelles. Elles ne constituent pas notre vie. Les actions ordinaires, au contraire, sont la vraie source de la valeur morale de notre vie, de notre perfection et de notre béatitude future. Ensuite, nos actions quotidiennes nous préparent aux actes héroïques que peut-être le bon Dieu nous demandera de faire un jour. Notre Seigneur le dit, « Si vous êtes fidèles dans les petites choses, vous le serez dans les grandes. » Si les saints ont réussi à faire des actes héroïques, c'est parce qu'ils s'étaient exercés d'abord à bien faire les actions ordinaires. Pensons à Saint Pidis, à Monseigneur Lefebvre, qui sont arrivés au plus haut sommet de la sainteté et même de la hiérarchie dans l'Église, qui ont fait des actes héroïques. C'est grâce à des années d'avoir fait leur devoir d'État que le bon Dieu leur demandait à chaque moment. D'abord comme écolier, ensuite séminariste, ensuite vicaire, curé, évêque, etc. Bien faire nos actions ordinaires, c'est aussi un devoir de reconnaissance envers Dieu, qui nous donne ses grâces à tout instant, pour que nous les fassions fructifier. Le temps, nos talents, ne nous sont pas donnés pour nous-mêmes. Dieu nous accorde tout cela pour lui rendre gloire en accomplissant le rôle qu'il a assigné à chacun d'entre nous. Quelle perte immense de laisser couler la plus grande partie de notre vie sans rien faire pour le bon Dieu. Rappelez-vous la parabole des talents et du mauvais serviteur. Le mauvais serviteur, il n'a pas perdu son talent. Il a même pu le restituer à son maître, à son retour. Mais il n'a pas utilisé, il n'a pas fait fructifier. Combien est coupable notre négligence, car un léger effort pourrait la vaincre, si nous le voulions. Et quel terrible jugement nous nous préparons pour l'autre vie. C'est justement le dernier motif pour bien faire nos actions ordinaires. C'est pour réduire et même peut-être éviter complètement le purgatoire. Nos fautes quotidiennes s'additionnent de jour en jour. Nous nous accumulons une grande dette à payer en purgatoire. En faisant bien nos actions ordinaires, au lieu d'augmenter cette dette, nous pouvons la réduire progressivement. Alors maintenant, comment bien faire nos actions ordinaires? Ça consiste en deux choses. C'est faire tout et bien ce que Dieu veut. Faire tout et bien ce que Dieu veut. Alors c'est d'abord faire tout ce que Dieu veut. Cela exclut évidemment d'abord tout péché. On ne peut pas plaire à Dieu en faisant des péchés. Ensuite, c'est tout ce qui est exigé par l'obéissance à notre règle et à nos supérieurs. Et si je parle de règle, il ne s'agit pas seulement des religieux. Nous avons tous des règles à suivre à la maison, au travail, il y a un règlement de l'école. Obéissance envers notre mari, nos parents, notre patron, nos professeurs, nos maîtresses. Il y a les coutumes et les rubriques de la liturgie. Bien faire les signes de croix. Bien faire une génuflexion en entrant dans l'église. Ce ne sont pas des petites choses finalement. Ensuite, Dieu veut notre devoir d'État. Selon notre condition et selon les priorités. Chaque chose en son temps. Le ménage, quand il faut faire le ménage. Remplir les papiers, quand il faut remplir les papiers. Passer des téléphones pour prendre les rendez-vous, quand il faut passer des téléphones. Parfois, quelque chose qui peut sembler meilleur en soi, une lecture spirituelle, par exemple, si ce n'est pas notre devoir d'État en ce moment-là, ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Et puis, dans les choses indifférentes, il faut essayer de faire toujours ce qui est meilleur. Nous demander, que ferait un saint? Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir fait sur mon lit de mort? Puis enfin, comment bien faire tout ce que Dieu veut? Pour bien faire nos actions, la première condition, c'est d'être en état de grâce. Sinon, nos œuvres ne sont que des œuvres mortes. Ensuite, avoir la pureté d'intention. Il faut essayer d'enlever tout ce qui parasite notre intention. La vanité, le respect humain, l'intérêt personnel. Il faut essayer de faire le plus possible pour la gloire de Dieu. Comme dit saint Paul, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quelque autre chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ensuite, faire nos actions sous le regard de Dieu, en pensant que Dieu s'intéresse à notre travail. Il nous regarde et il voit comment nous accomplissons nos actions. Même si les hommes ne verront pas notre travail dans tous ces détails, le bon Dieu le voit. Et pour cela, cela aide beaucoup d'avoir des crucifix, des images pieuses, etc., dans toutes les pièces de la maison, dans notre bureau, dans notre atelier. Et puis, essayons de faire nos actions avec charité, avec amour pour le bon Dieu. Une action faite sans la ferveur de la charité est un encensoir sans feu. Et c'est beaucoup, beaucoup plus facile qu'on le pense, car il ne s'agit pas forcément d'une ferveur sensible, des palpitations du cœur, etc. Pour faire une action pour l'amour de Dieu, il suffit de le dire. C'est aussi simple que ça. Seigneur, je vide la poubelle pour l'amour de vous. Seigneur, je vais au travail pour l'amour de vous. Seigneur, je monte l'escalier pour l'amour de vous. Ces quelques mots sont comme une baguette magique qui transforme la boue de nos actions ordinaires en l'or de la charité. Et puis enfin, une dernière chose, ce qui résume un peu tout ce qui précède, c'est qu'il faut essayer de faire nos actions ordinaires en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qui rend nos actions agréables à Dieu. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. En soi, nos actions n'ont et ne peuvent avoir aucune valeur devant Dieu. Le bon Dieu n'a aucun besoin de nous et de ce que nous faisons. Il est infiniment heureux en nous. Mais en tant que chrétiens, baptisés et membres du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes véritablement la continuation de Jésus sur la terre. Ce que nous faisons, unis à lui par charité, c'est comme si c'était lui-même qui le faisait. Lui, au sujet de qui le Père éternel a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Et c'est cela qui donne une valeur à nos actions. Notre Seigneur a dit un jour à une religieuse, la sœur Marie du Divin Cœur, « Je vois avec tes yeux, je travaille avec tes mains, je parle avec ta bouche et je prie par toi. » Essayons d'avoir ces paroles présentes à l'esprit quand nous faisons les actions, même les plus banales, de notre vie quotidienne. Et puis, pour conclure, il faut reconnaître que le bon Dieu ne nous demande pas des choses au-dessus de nos forces. La voie de la sainteté n'est ni compliquée ni difficile. Et tout cela, tout ce que nous avons vu, rentre parfaitement dans ce que Notre-Dame de Fatima nous demande en ces temps si troublés où on peut se croire un peu submergé par le mal dans le monde. Mais la solution est très facile. Je cite celui-ci. À maintes reprises, pendant les précieuses heures que j'ai passées en sa compagnie, Notre-Dame insista sur l'accomplissement du devoir quotidien selon notre condition de vie. Et l'offrande de cet effort en réparation de nos péchés et pour la conversion des pécheurs. Ceci est la condition fondamentale qui nous permettra de repousser le flot des forces du mal qui menace de submerger le monde d'aujourd'hui. En demandant cette grâce à la Sainte Vierge, elle qui, tous les jours, de façon très cachée, pendant la vie privée de notre Seigneur à Nazareth, a bien fait toutes ses actions ordinaires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.